Que le nom du Seigneur soit béni. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs, que Dieu a une armée ? Comment est-elle l'armée du Seigneur ? Comment est-elle ce soir, vous qui représentez les soldats du Seigneur ? Alors justement, on va lire un texte qui ne pouvait pas tomber mieux par rapport au cantique que nous venons de chanter. Dans le psaume 78, au verset 4, à partir du verset 4, il est parlé de l'importance du témoignage et de nos enfants. Vous avez des enfants, non ? Est-ce que vous avez des enfants ? Vous allez en avoir, peut-être. Vous avez peut-être des petits-enfants. Et nous voudrions que nos enfants, nos petits-enfants, ou les enfants que vous allez avoir, si vous allez bientôt vous marier, eh bien, aient un bon témoignage, reçoivent un bon témoignage. Regardez dans le psaume 78 ce que dit le Asaph. 78, verset 4. « Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. » Vous voyez l'importance du témoignage. Les générations futures, et à sa puissance, et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu, les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. » Oui, vous pouvez dire « Amen » quand même. Nous voyons dans ce texte deux choses. La première, que Dieu veut que nos enfants, les générations qui suivent, eh bien, connaissent la bénédiction de l'Éternel. Et ça termine avec ce constat terrible que les fils d'Éphraïm, qui représentent le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, eh bien, étaient armés, tiraient de l'arc. Si vous avez l'occasion de voir dans d'autres versions, vous verrez que c'était des gens exercés au combat. Eh bien, au jour du combat, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tourné le dos. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe dans le peuple de Dieu. Nous avons des armes. Est-ce que le chrétien est armé ? Ben oui. Nous ne pourrons pas dire au Seigneur, oui, si tu m'avais donné des armes, j'aurais été un bon soldat. Si tu avais été avec moi, est-ce que nous avons un grand capitaine ? Est-ce que notre capitaine est bon ? Qui c'est notre capitaine ? C'est le Seigneur Jésus. Vous vous rappelez quand Josué a traversé le Jourdain, qu'il est arrivé devant Jéricho, il y avait Jéricho qui séparait le nord du sud, et il était tout seul, il était là devant les situations qu'il devait affronter, et il s'est trouvé devant Jéricho. Et tout d'un coup, il voit un homme, une épée nue à la main. Et il dit, mais es-tu avec nous ? Ou es-tu des nôtres ou es-tu de nos ennemis ? Et il réalise qu'il a affaire à l'ange de l'Éternel qui lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Est-ce que c'était bien ? Moi, je trouve que c'était bien. C'était quand même bien de savoir qu'il allait être très bien accompagné. C'était le Seigneur qui lui montrait qu'il allait l'aider à combattre. Nous pouvons dire la même chose, nous avons un Dieu qui est avec nous. Il est avec nous. Est-ce que nous le laissons nous conduire dans nos combats ? Est-ce que nous savons nous armer de toutes les armes ? Parce que le problème, il est double. Il est double dans le sens où si nous ne combattons pas, l'ennemi prend de l'avance. Et c'est ça le problème. Souvent on se dit, oui, c'est pas normal, l'ennemi gagne. S'il y a bien une armée spirituelle qui devrait être toujours dans la victoire, c'est l'armée du Seigneur. Et pourtant, on voit bien dans l'Apocalypse que, hélas, dans toutes les églises, il y a des choses qui ne vont pas, mais qu'il y aura des vainqueurs. Est-ce que vous aimeriez vivre ce cantique que vous venez de chanter ? Parce qu'il n'y a rien de pire que de chanter un cantique comme ça. Franchement, je ne sais pas vous. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, etc. Bon, c'est des paroles de victoire, ça, quand même. Oui ou non ? Merci, monsieur Pet. Vous l'avez chanté ? Vous l'avez chanté, mes frères et sœurs ? Ça veut dire, mais voilà, ça veut dire que je suis engagé dans cette armée. Et je veux combattre le bon combat. Parce qu'il y a un bon combat. Il y a un mauvais combat. Et il y a un bon combat. C'est écrit quelque part, combat, le bon combat de la foi ? Où c'est écrit, Michael ? Dans Timothée, 1 ou 2 ? 1 ? Alors on va lire dans 1 Timothée. Si ce n'est pas ça, Attention. 1 Timothée chapitre 4. L'apôtre Paul exhorte ce jeune pasteur à combattre et il dit bien, moi vous savez j'ai été souvent interpellé par ce verset, il m'a fallu quelques années pour le comprendre. Alors c'est où ça? 1 Timothée, tu te rappelles pas le texte? 1 Timothée chapitre... Allez on va essayer peut-être 2 Timothée, allez on va voir. 2 Timothée chapitre 4, au cas où ça aurait changé dans la nuit. 2 Timothée, ah ça a changé. Ça a changé. Hein? 2 Timothée, chapitre 4, au verset... On voit ce témoignage à la fin de sa vie. Verset 6. Il sait que son temps est fini. Il dit, pour moi, je sers déjà de libation, car le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. Mes frères et sœurs, voilà ce que nous devons comprendre. Il y a un combat, ou c'est un mauvais combat, ou c'est un bon combat. Et je crois que parfois, sans que nous nous en rendions compte, nous n'avons pas fait esprit, nous avons combattu un mauvais combat. Quand est-ce que nous combattons un mauvais combat? Quand est-ce que c'est le bon combat? Parce qu'en fin de compte, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que je combats le bon combat? Ou est-ce que je pratique un mauvais combat? Alors, un petit peu en avant, dans Éphésiens, au chapitre 6, il est parlé justement de ce combat. Comment peut-on combattre ce combat puisque c'est un combat spirituel? Il n'y a pas besoin d'acheter des armes et des fusils et des épées ou des arbalètes. Il n'y a pas besoin. Il nous faut combattre un combat spirituel. Ce n'est pas un combat, voilà, comme Paul dit si bien aux Éphésiens, au chapitre 6. Au reste, 6 verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force, toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà le problème. Lorsque nous combattons contre la chair et le sang, est-ce que vous pensez que ça peut nous arriver de combattre contre les gens, de combattre contre des situations, de combattre contre quelqu'un, de dire « oui, celui-là, je vais lui donner la monnaie de la pièce », comme on dit, etc. Quand on combat contre la chair et le sang, le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte, c'est que Dieu ne combat pas pour nous. Vous voulez que Dieu combatte pour vous? Si vous voulez que Dieu combatte pour vous, ne combattez pas les gens. Et c'est ça que le diable veut. Dieu veut que nous tournions le dos au combat et que nous pensions que c'est un bon combat. Si ce n'est pas un bon combat, la palisse, vous le direz, c'est un mauvais combat. Et si vous combattez contre la chair et le sang, eh bien vous combattrez un mauvais combat. Et vous vous épuiserez, et Dieu ne vous exaucera pas, parce que Dieu n'est pas obligé de nous exaucer quand on lutte contre la chair, contre le sang, quand on en veut aux gens, et celui-là, moi je vais lui dire ce que je pense, il va comprendre, et je vais prendre la Bible, et je vais lui dire que c'est écrit comme ça. Est-ce qu'il n'y en a pas qui l'ont fait ça? Moi je connais la Bible, voilà, t'as vu, il est écrit. Écoutez-moi. Évitez les discussions vaines et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Il vaut mieux se mettre dans son petit bureau, dans sa petite chambre, à genoux au pied de son lit ou dans votre salon, comme vous voulez. Le lieu, ça n'a aucune importance. Mais que vous vous mettiez là, Seigneur, je dépose cela à tes pieds. Je me souviens d'un frère avec qui j'avais noué une bonne relation dans l'église à Tahiti, et il avait été confronté à un gros problème. C'était vraiment, ça touchait même le gouvernement, ça allait très loin. Et un jour il m'appelle, et justement le matin dans la prière, je lisais le psaume 39. On va lire ce texte, dans le psaume 39, je m'étais arrêté, c'était la première fois que je m'arrêtais sur ce verset. C'était drôle parce que bon, les psaumes je les ai lus des centaines de fois, mais ce matin-là, j'ai été arrêté par ce verset, au verset 39, au chapitre 39, psaume 39, il est dans la souffrance, il y a vraiment une souffrance. Parce que vous savez, la souffrance, elle nous amène à faire des bêtises, la souffrance. Est-ce que vous le savez? Quand on souffre, on a tendance à combattre contre la chair et le sang. Et ce psaume, justement, commence avec beaucoup de souffrance. Regardez, « Je suis resté muet, dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux. » Oui, il y a de la souffrance. Bon, c'est quand même David, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Mais il exprime, ma douleur n'était pas moins vive. Et au verset 10, je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Et justement, j'étais moi dans un problème, bon, mais pas important, à côté de ce problème qu'allait m'expliquer ce frère, et je lui ai dit, écoute, il s'appelait Eric, je lui ai dit, écoute Eric, ce matin, j'ai été vraiment arrêté par le verset 10 du psaume 39, je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Et j'ai dit, ne combats pas contre la chair et le sang, tu vas avoir un gros problème. Et c'est vrai que ça a été jusqu'à des menaces de mort. En fait, c'était quelque chose de vraiment grave, vraiment très grave. Ça a pris 3 ou 4 ans. Et cet homme a vu Dieu le bénir, vraiment. Ça a pris longtemps. Mais je vous assure que Dieu l'a béni. Et tous les jours, il avait ce verset de rester muet, de ne pas ouvrir la bouche, parce qu'en plus, il avait la facilité de s'exprimer. Il aurait pu faire tout ce qu'il avait des avocats qu'il fallait. Et il a dit non. Je vais maintenir à cette parole, je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Et pourquoi il a eu la solution? Parce que c'est bien une solution, c'est bien d'avoir la solution quand on est dans un problème. Et la solution, elle est au verset 4, en vérité. Parce que c'est bien de vous donner des versets qui vont vous faire comprendre ce que c'est le bon combat de la foi, ce que c'est de ne pas tourner le dos au combat, car c'est dommage que l'Église d'aujourd'hui, je ne parle pas Sainte-Agne, mais quoi qu'il y ait beaucoup de chrétiens Sainte-Agne, qui soient dans ce cas de figure, qui ont tourné le dos au combat. Ils viennent, ils aiment l'Église, ils aiment le Seigneur, ils sont au bénéfice des bénédictions, mais ils ne combattent pas. Et quand on s'entraîne, je me souviens quand j'étais à l'armée, j'étais dans une compagnie de combat. C'était la meilleure compagnie qu'il y avait en Polynésie. C'était la seule compagnie de combat, il y en avait 2 autres, mais c'était la seule qui vraiment était opérationnelle. Et je me souviens, une fois, on avait fait les championnats de Polynésie de natation. Je vous dis ça parce que ça m'a marqué. Il y avait 36 courses. Et la compagnie, notre compagnie, avait ramené 33 médailles sur 36. De toutes les casernes de... Et le capitaine, il nous a insultés parce qu'on n'avait pas ramené les 36. Mais c'était comme ça. Et bon, moi, je trouve ça bête. Mais... Enfin, c'est pour vous dire qu'il y avait des gars quand même qui s'entraînaient. Moi, je ne faisais pas partie des nageurs, je vous rassure. Mais croyez-moi, il y a des gens qui s'entraînent. Et Dieu voudrait une armée qui combatte le bon combat. Alors David est inspiré, puisque le psaume, il est dans la Bible. Mais regardez ce qui se passe. Cette vie, parce que c'est facile de dire à quelqu'un, allez, soyez des combattants, fortifiez-vous dans le Seigneur, ne combattez pas contre la chair et le sang, si vous avez un problème, eh bien, restez muet, taisez-vous. Ça va pas être facile déjà, ça. Mais qu'est-ce qui se passe au verset 4? Au verset 4, David dit ceci, « Un feu brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. » Et la parole est venue sur ma langue. Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est qu'il y a quelque chose qui brûle dans le cœur de David. Il y a quelque chose qui l'embrase, qui va le pousser à avoir la réponse, malgré la souffrance. Il y a des gens, quand ils souffrent, « Ouais, j'envoie tout balader, si c'est ça, je prie plus, je lis plus, je vais plus à l'église. » Non, 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 non. Je pense qu'on doit être intelligent et pouvoir, malgré la souffrance, dire « Il faut que quelque chose se passe à l'intérieur de mon cœur. » Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Dans une autre Bible, j'ai mis le feu de la méditation. C'est comme ça, moi, que j'ai donné le titre à ce psaume 39. Là, c'est la fragilité de l'homme. Oui, c'est bien. Mais moi, j'ai donné le feu de la méditation. Parce qu'un chrétien, il doit apprendre à méditer. Vous aimez méditer? C'est écrit dans la Bible, l'importance de méditer. Heureux l'homme qui médite jour et nuit. C'est écrit. Et voyez, il a eu la solution dans cette épreuve douloureuse. Il a eu la solution, lui, David, qui était un homme très habile dans ses propos. La preuve, c'est que je crois qu'il y a 40 livres de l'Écriture qui parlent de lui. Pour vous dire quand même, c'est pas rien. Je ne sais pas combien de psaumes il a composés. Enfin, toutes les fois, on parle de lui dans la Bible. Même le Seigneur Jésus a parlé de lui. Je veux dire, eh bien, c'était un homme qui avait appris à méditer. Il avait appris à méditer. Si on va un peu plus loin dans le psaume 45, il n'y a pas que le feu de la méditation. Et c'est ça que je voudrais vous encourager à vivre. Car si nous voulons être cette armée, ces soldats fortifiés, il faut qu'il se passe quelque chose dans notre cœur. Regardez au psaume 45. Au psaume 45... Regardez un autre psaume. Alors moi, j'ai appelé ce texte le feu de l'adoration. Des paroles, psaume 45, verset 2, des paroles, comment c'est dans votre Bible, pleines de charme, bouillonnent dans mon cœur. Quand je lis ce verset, je pense toujours à la cocotte minute. Vous savez, la cocotte minute, au bout d'un moment, vous avez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait le sifflet? Eh bien, elle se met à siffler, oui, quelqu'un l'a bien imité. Elle siffle. C'est incontournable. Quand la chaleur provoque la pression, la chaleur, oui, de l'eau, eh bien, elle se met à siffler. Eh bien, c'est exactement le même principe. Il y a des gens, des fois, ils n'osent pas louer, ils n'osent pas prier, ils n'osent pas témoigner, mais parce qu'il manque cette pression. C'est impossible. Une vraie cocotte minute, quand vous mettez le feu, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui s'extériorise. Le sifflet se met en marche et pouf, la fumée s'en va. C'est exactement le même principe. Des paroles de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, tu es le plus beau des fils de l'homme. Voilà. Il y a quelque chose qui sort du cœur de ce psalmiste. Pourquoi? Parce qu'il a pris la décision d'adorer. Dans le psaume 39, on voit David qui a pris la décision de méditer. Et nous ne nous rendons pas compte à quel point cette œuvre se fait parce qu'on peut expliquer, fortifiez-vous dans le Seigneur. Oui, c'est bien, toi tu l'as facile, ou toi tu as la facilité de ceci. Non, ce n'est pas une question de facilité, c'est une question de décision. Je prends la décision de méditer. Vous n'avez pas envie des fois de dire merci au Seigneur pour des choses bénignes? Ça ne vous arrive pas des fois? Pourquoi vous le faites? Parce qu'on vous a forcé, vas-y, remercie Dieu. Il y a des gens qui peuvent le faire pour le rendre grâce à table, parce que c'est devenu une espèce de tradition. Mais peut-être que dans la journée, vous dites, oh Seigneur, merci pour ça. Voilà, ça sort de votre cœur. C'est bon signe si vous avez pris ce réflexe de remercier Dieu pour ceci, pour cela, spontanément. Oh, merci Seigneur, tiens, pour l'église, elle est chauffée. C'est bien d'avoir une église chauffée. Vous les connaissez? C'est une grâce. Tout est grâce. Il y a des gens qui ne remercient jamais Dieu. Vous avez vu, je parlais de David dimanche, quand il n'était pas bien, je gémissais toute la journée. Pourtant, c'est le même qui a écrit, parce qu'il n'a pas veillé. Et Dieu dit, voilà, les fils d'Éphraïm, ils étaient armés, tirant de l'arc, exercés au combat, et ils ont tourné le dos. Est-ce que c'est le moment de tourner le dos? Pour nos enfants, est-ce que nous voulons, comme on l'a lu dans le psaume 78, est-ce que nous voulons que nos enfants ne voient pas un bon témoignage de l'Église? Est-ce que c'est important que nos enfants reçoivent un bon témoignage? Vous avez des enfants? Est-ce que vous avez envie de rendre un bon témoignage à vos enfants? Relisez le psaume 78. Vous verrez l'importance que Dieu attache à ce que nos enfants aient un bon témoignage. Moi, il y a des enfants qui m'ont dit, quand je vois mes parents, je peux vous dire, j'ai pas envie d'aller à l'Église. Ah bon? Et qu'est-ce qui se passe? Ça fait peur des fois. Je crois qu'un chrétien, il ne tourne pas le dos au combat. S'il y a bien une chose que nous pouvons faire, c'est d'être bien armé. Être bien armé. Parce qu'on a, des moments difficiles. Le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations. Mais, qu'est-ce qu'il ajoute? Qu'est-ce qu'il ajoute? Dis-moi. Tu es sûr? C'est écrit où? Non, 16. Prenez courage. J'ai vaincu. 16:33, si je ne me trompe pas. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parce qu'il y a les armes extérieures, peut-être, qui donnent l'image de la vie extérieure. Mais si on peut avoir toutes les armes, si on n'a pas de courage, vous rappelez quand David est arrivé sur le champ de bataille? Vous rappelez? Ce jeune homme qui est arrivé, il n'y avait rien. Et Saül, quand au bout d'un moment que Dieu a conduit, et que Saül a donné l'autorisation, parce qu'il fallait l'autorisation quand même du roi, quand le roi a donné l'autorisation que David aille se battre contre David, Saül n'a pas trouvé mieux de lui donner son armure. Vous rappelez? Il a donné son armure, il a dit, voilà, écoute, tu vas aller te battre. Alors, Saül était un grand bonhomme en plus, et heureusement qu'il n'est pas parti avec cet attirail. Il a dit, non, je ne peux pas aller me battre avec, je ne suis pas accoutumé. Heureusement, moi je bénis Dieu pour cet exemple, parce qu'il faut être soi-même. Il ne faut pas qu'on nous impose la ferraille des autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'on soit soi-même. Et heureusement qu'il est parti juste avec sa fronde et les quelques pierres qu'il a pris dans le torrent. Il était lui-même. Il avait son arme. C'était pas une grosse arme de guerre. C'était juste une petite fronde. Mais c'est pour vous dire l'importance d'avoir d'abord du courage à l'intérieur du cœur. Prenez courage. Et le courage, c'est avec votre optimisme que vous l'avez. Vous êtes optimiste ou pessimiste? Tiens donc, c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous êtes, pessimiste ou optimiste? J'espère que vous êtes ni l'un ni l'autre. Ça ne sert à rien. Ben, il vaut mieux être optimiste que pessimiste, bien sûr. Je pense qu'il faut être spirituel. L'autre jour, j'étais avec une dame quand on a vu pour le bâtiment, là, vous savez. La responsable de l'urbanisme, elle me posait des questions. Puis elle a essayé de me coincer. Elle me dit, mais monsieur Gault, ne soyez pas optimiste. Mais je ne suis pas optimiste. Alors elle était étonnée. Je ne suis ni optimiste, ni pessimiste. Je suis réaliste. Et je crois vraiment dans... Bon, je lui ai dit certaines choses. Mais moi, je crois, mes frères et sœurs, que ce n'est pas une question d'être optimiste ou pessimiste, qui sont des valeurs humaines. Ce qui est important, c'est d'être réaliste. Et voilà, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut me donner du courage. C'est lui qui va me donner du courage. Moi, le mien, je ne vais pas puiser dans mon optimisme, je préfère puiser dans le courage que Dieu donne. Prenez courage, ça veut dire que c'est lui qui va vous donner du courage. Vous croyez que Dieu peut vous donner du courage? Peut-être que vous ne l'avez jamais expérimenté, mais pourquoi ça ne serait pas la prochaine expérience que vous feriez avec Dieu demain matin, dans votre moment de prière, dit Seigneur, je veux prendre du courage. Vous savez, c'est un acte de foi. Demain, vous allez prendre un café peut-être. Qu'est-ce que vous déjeunez avec quoi? Hein, vous prenez un bol, il ne vient pas tout seul le bol, hein, sur la table. Vous prenez un bol, vous prenez votre chicorée, votre ricorée, vous le prenez parce que vous l'amenez à vous. Eh bien c'est pareil, quand Jésus dit prenez courage, vous vous tenez dans sa présence, et, Seigneur je veux faire un acte de foi, j'ai besoin de courage, donne-moi du courage. Le tien, c'est ça s'armer. On revient à Éphésiens chapitre 6. On combat contre la chair et le sang, c'est pour ça qu'il faut apprendre à... Il y a des chrétiens qui sont toujours, excusez-moi l'expression, comme on dit, mais en vrac, toujours découragés, toujours affligés, ils vont toujours mal, toujours, toujours, pour la simple et unique raison qu'ils combattent contre la chair et le sang. Car je le répète, quand vous combattez contre la chair et le sang, Dieu ne combat pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se découragent dans la prière. Mais je peux vous dire que quand vous combattez avec les armes spirituelles, le bon combat, Dieu combat pour vous. On revient à Éphésiens chapitre 6. On s'est arrêté à l'importance de ne pas combattre contre la chair et le sang. Qu'est-ce qu'il dit donc? Parce que le combat, il est spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez, dans la Bible, si vous voulez faire des progrès, il vous faut apprendre à réfléchir aux verbes qui sont indiqués. Vous voyez, comme prenez courage. Il y a des gens, ils lisent, ils font pas attention, il y a des verbes qu'on appelle les verbes actifs. Ce sont ces verbes qui nous font comprendre la volonté de Dieu. Vous voyez, comme on a vu, prenez courage, prenez toutes les armes de Dieu. Je suis persuadé que quand on meurt, on doit être vexé presque de ne pas avoir réalisé qu'on aurait pu être fort dans le Seigneur, avoir eu toutes les armes. On doit se dire, qu'est-ce que je suis passé à côté de cette expérience merveilleuse. Vous voyez, prenez toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas les vôtres, je vous le répète. Ce n'est pas l'optimisme qui va vous aider. C'est cette grâce, les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Eh bien oui, il y a des mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça vous plaît qu'il y ait des mauvais jours? Vous avez remarqué qu'il y a des jours plus mauvais que d'autres? Non? Il faut arriver à quel âge pour se rendre compte qu'il y a des jours mauvais? Ben c'est comme ça. Et Dieu le sait, il y a des jours où l'ennemi s'acharne davantage. C'est comme ça. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Voilà la première des armes. La vérité pour ceinture. C'est pour cela qu'il faut lire la parole de Dieu tous les jours. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Mes frères et sœurs, si vous voulez être dans la victoire, il vous faut vivre dans la vérité. Et la vérité, ça vous permettra chaque fois de... C'est une arme, la vérité. Voilà, vous êtes accablé par un souci. Ah, ne vous faites pas du souci. Le lendemain aura soin de lui-même. Est-ce que vos pensées sont captives à ces promesses divines? Vous avez vu toutes les promesses? Il y a des spécialistes qui ont dit qu'il y avait au moins 32 000 promesses dans la Bible. Et si Dieu fait des promesses, ce n'est pas pour qu'on rêve. Dieu a fait des promesses pour les accomplir. Et il les fait pour nous d'ailleurs. Elles sont pour vous, mais il les fait pour les accomplir. Et vous devez dire, tiens, cette promesse, si elle est dans la Bible, elle est pour moi. Tiens, ah, je reste muet, je reste dans le silence, car tu agis. Ah, mais ça me plaît, ça. Eh bien, je ne dirai rien. Vous savez, je sais de quoi je parle. Par rapport à des problèmes que j'ai traversés, car on a tous des problèmes, chacun à notre niveau, de dire, ben, je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Vous savez, quand vous êtes pasteur, des fois, en plus, vous pourriez utiliser votre position pour dire ou faire. Combien de fois je me suis mis à genoux dans mon bureau et je dis, Seigneur, je dis rien. Je te le dis qu'à toi. Et quand Dieu agit, vous savez que c'est Dieu qui agit. Parce qu'il n'y a pas eu d'interférence, c'est Dieu qui l'a fait. Et je crois que ça glorifie Dieu quand vous lui dites, mais Seigneur, je veux me tenir devant toi. Je veux m'appliquer à toi. On parlait tout à l'heure avec un frère de David, justement. Vous savez, David, il y a des gens des fois qui disent, oui, moi je suis comme David, je pleure, je fais ci, mais il pleure devant les gens. Bon, ce n'est pas interdit de pleurer devant les gens. Mais David, il parlait à Dieu. J'espère que vous aimez parler à Dieu. Vous êtes heureux si vous aimez parler à Dieu. Vous êtes heureux si vous aimez parler à Dieu. Donc la vérité, ça vous permet chaque fois d'avoir une réaction biblique. C'est ça que Dieu aime. C'est ça, être armé de toutes les armes de Dieu. Voilà. Quelqu'un se moque de vous. Est-ce que ça peut arriver que quelqu'un se moque de vous parce que vous êtes chrétien? Voilà, soyons pratiques. Qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à dire, ouais, tu m'énerves. Fais un chemin, pourquoi tu te moques de moi? Parce que je suis chrétien. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux gens qui se moquent de vous? Est-ce qu'il y a un verset qui vous vient à l'esprit? Michael, je veux savoir. Est-ce qu'il y a un verset? Moi, ça m'est arrivé ici. Je venais d'arriver à Toulouse. Et pour vous dire, peut-être il y a quelques années en arrière, je me serais peut-être taché. Et il y avait une femme que je prêchais, elle était là, secouait la tête. Je voyais qu'elle n'était pas contente. Bon, j'ai vu qu'elle m'attendait à la sortie. Quand tout le monde est parti, elle me dit, Monsieur Gault, je peux vous parler? Je dis, ben oui, si vous avez quelque chose à me dire. Je me demande, qu'est-ce que vous faites sur une estrade? Ben, j'ai écouté, je fais de mon mieux. Voilà. Eh ben, moi, si j'étais vous, je ne prêcherais pas, parce que vous ne savez pas prêcher. Puis, écoutez, ben, c'est pas grave, mais priez pour moi. Et elle a commencé à se moquer de moi. Et puis, au bout d'un moment, j'ai pensé à ce verset. Heureux serez-vous lorsqu'on se moquera de vous. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et moi, dans la tête, je me suis dit, bien, continue, parce que la récompense, elle s'agit. Mais franchement. Hein. Et puis, elle a dû voir à mon rictus que ça ne me faisait rien. Elle me dit, à quoi vous pensez? Mais je voulais que je vous le dise. Et je lui ai dit, mais je vais vous le dire. On a lu Matthieu 5, heureux serez-vous lorsqu'on se moquera de vous. Parce que votre récompense sera grande à Dieu. J'ai écouté, franchement, vous moquez de moi, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que j'allais lui faire? J'allais lui prouver que Dieu m'avait vraiment appelé à mon ministère. Vous comprenez ce que je veux dire? J'allais passer un quart d'heure à lui expliquer que mais si, je sais, je dois prêcher. Voilà. Et c'est ça la vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est pas commencer à se justifier, à se débattre, à s'expliquer. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas discuter. Évite les discussions vaines et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Et les gens ne lisent pas. Ce même texte, je me souviens, il y avait un frère qui est parti. Ça faisait 25 ans ou 30 ans qu'il était chrétien. Et ça faisait 30 ans qu'il était triste. Parce qu'au travail, on se moquait de lui. Et il est venu me voir un jour, il dit, Monsieur Gault, j'en ai marre, je suis malheureux. Je dis, qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, au travail, on se moque de moi parce que je suis chrétien. Je dis, mais vous n'avez pas lu Matthieu? Quoi, Matthieu? Alors, je lui ai fait lire, avez-vous? On va le lire. Vous voyez? Mais en plus, c'est la première chose qu'on lit quand on découvre l'évangile, puisque c'est l'évangile de Matthieu. Le sermon sur la montagne. En plus, il me disait, oh oui, j'aime le sermon sur la montagne. Et puis, c'est comme les gens qui disent, voyez, j'aime le psaume 23, voyez, c'est pareil. Ah, le psaume 23, c'est mon psaume préféré. Il est sur mon poster, au-dessus de mon lit. Et je dis au frère, je dis, mais vous n'avez pas lu Matthieu 5, verset 11 et 12? Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ça la vérité pour ceinture. Alors, ça ne veut pas dire qu'on devient maso, mais ça veut dire qu'on comprend les Écritures. Combien de gens m'ont dit, ah, le psaume 23, Monsieur Gault, ah, mon enterrement prêché sur le psaume 23. C'est mon psaume préféré, je le connais par cœur. Puis 8 jours après, ah, j'en ai marre, on se moque de moi et tout. Voilà, j'ai de l'adversité dans ma vie. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que le psaume 23 parle de l'adversité? Est-ce que le psaume 23 parle de l'adversité? Tu dresses une table en face de mes adversaires. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit, Michael. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que quand il y a de l'adversité, si le Seigneur est notre berger, puisque c'est ça, l'Éternel est mon berger, s'il restaure mon âme, parce que pour qu'il restaure mon âme, il faut que le Seigneur soit mon berger, sinon ça n'a aucun sens, mais si le Seigneur est mon berger, et s'il restaure mon âme, parce que tous les jours, je me tiens devant lui, eh bien, quand il y a un adversaire, de l'adversité, eh bien, il dresse une table. Ça veut dire qu'il met une bénédiction entre l'adversaire et moi. Et vous croyez que la table, c'est une bénédiction? Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est la preuve que les gens n'ont pas compris ce qu'était le bon combat. Le bon combat, c'est un bon combat. Même il y a une version qui dit le beau combat. Je ne sais pas si vous l'avez dans votre Bible. Il combat le beau combat. Pour vous dire que Dieu veut nous éclairer et nous montrer qu'il y a un beau combat. Et lorsque vous prenez à cœur les promesses, vous dites, voilà, il y a de l'adversité, oui, il y a des collègues au boulot qui se moquent de moi, et bien Seigneur, bénis-les. Voilà. Il faut qu'on réfléchisse à ces choses. Car pourquoi tant de chrétiens ont tourné le dos? Pourquoi les fils d'Éphraïm, ils ont tourné le dos? Ils n'ont rien compris au combat. Quand on ne combat pas, c'est que ça ne nous plaît pas. C'est qu'on n'a pas envie. C'est qu'on n'a rien compris. Moi, je ne veux pas critiquer. Mais quand on a compris ce qu'était le bon combat, on a envie de le combattre. Pourquoi? Eh bien, parce que Paul dit, mais, qu'est-ce qu'il a dit là? On ne l'a pas lu. Mais la couronne de justice m'est réservée. C'est pas beau, ça? Il y a une couronne, il y a des couronnes dans le ciel. On n'y fait pas trop attention parce que dans le mouvement, on ne parle pas trop des récompenses, ceux qui s'expliquent, mais qu'on le veuille ou non, Dieu nous encourage et nous montre qu'il y a des couronnes pour les vainqueurs. Alléluia. Et quand on apprend à prendre, à prendre courage, à prendre la vérité, moi je vous assure, une des choses qui m'a le plus peiné dans mon ministère, c'est de voir des chrétiens qui ont 5 ans, 10 ans de conversion, et dans une difficulté, ils réagissent exactement comme les païens. C'est pour ça qu'il y a tant de rétrogrades, c'est pour ça qu'il y a tant de chrétiens faibles, tant de chrétiens désarmés, oui, désarmés, parce qu'ils n'ont pas compris l'importance de prendre toutes les armes. La vérité pour ceinture, c'est quoi la deuxième? Il faut m'aider. Michael, tu m'aides? Comment? La cuirasse de la justice. Qu'est-ce que c'est ça, la cuirasse de la justice? La cuirasse de la justice. La cuirasse, elle protège quoi? Le casque, qui protège quoi? La cuirasse, elle protège quoi? Le cœur. Notre poitrine, notre cœur. Alors, Éphésiens chapitre 6, hein. Prenez la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. La justice, est-ce que c'est important de vivre dans la justice, d'être justifié? Est-ce que vous croyez que le sang de Jésus vous a justifié? Est-ce que vous le croyez vraiment, que le sang de Jésus vous a lavé, que votre cœur, il est protégé? Eh oui. C'est ça la cuirasse de la justice. La Bible dit que Jésus a été fait pour nous justice, sanctification et rédemption. Et je dois avoir mon cœur protégé. Je suis couvert par la justice divine. Vous avez vu tout ce qui arrive? Vous le savez que la colère de Dieu vient, j'en parle souvent. Mais croyez-moi, ceux qui ont revêtu la cuirasse de la justice, ils n'ont rien à craindre. Vous pouvez dire, amen. Vous ne croyez pas que c'est une bénédiction? Et c'est pour cela, moi je vous assure, je suis peiné, je le redis parce que bon, c'est pour vous aider à comprendre, de voir tant de chrétiens qui sont dans la défaite. Dieu dit, prenez, et bien prenez, prenons. Si le Seigneur dit, prenez la cuirasse de la justice, c'est que mon cœur, mon corps, mais mon cœur qui représente le siège des émotions, tout ça, a besoin d'être protégé. Je suis couvert par la justice divine. Je ne vais pas aller au ciel parce que je suis ceci ou parce que je suis un bon chrétien. Je vais aller au ciel parce que je suis justifié par la justice divine. Le casque du salut, la tête aussi. Bon, le cœur, ça travaille, mais la tête, je trouve que ça... Non? Vous ne trouvez pas que là-dedans, ça, des fois, ça a tendance à chauffer? Le casque du salut. Combien notre cerveau a besoin d'être protégé par cette pensée, il nous a sauvés. Vous le croyez que vous êtes sauvés? Pourquoi? Parce que vous êtes pentecôtiste, évangélique, religieux, Une religion, ce n'est pas la religion qui sauve. Nous sommes sauvés parce que dans notre tête, nous le savons, le Seigneur Jésus nous a dit que si nous l'acceptions, celui qui croirait au Seigneur Jésus, il serait sauvé. Vous le croyez ça? Et ce sont des armes. Il y a des gens, oui, mais le salut, monsieur Go, moi je ne le sens pas que je suis sauvé, je voudrais le sentir. Est-ce qu'il dit sentez le salut? Et quand on voit l'épître de Jean, c'est pour vous dire que les gens ne lisent pas, mais tout a été écrit pour que justement on sache les choses. Regardez avec moi dans 1 Jean. Dans 1 Jean au chapitre 5, déjà ce problème devait exister à l'époque de Jean, vous voyez, c'est vieux ça. Hein, ça a presque 2000 ans. Dans 1 Jean au chapitre 5, les chrétiens étaient certainement influencés par des croyants sentimentaux, des pasteurs sentimentaux, ça a toujours existé. 1 Jean chapitre 5, verset 13. Regardez bien avec moi. Je vous ai écrit ces choses. Bon, si c'est dans la Bible, c'est pour nous aussi. Alors, vous y êtes? Je vous ai écrit ces choses afin que vous sentiez... Est-ce que c'est ça qui est écrit? Comment? Voilà. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Afin que vous sachiez. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, oh, je ne le sens pas. Je le sais. Mais ne vivez pas des émotions pour les choses spirituelles. C'est ridicule. Parce que vous ne serez jamais fort et ne pourrez jamais combattre. Et je vous ai écrit afin que vous le sachiez. Vous avez accepté Jésus-Christ. Vous croyez qu'il est mort sur le bois de la croix. Il vous faut savoir que vous avez la vie éternelle. Après, il le dit, voyez, au verset 15. Si nous savons qu'il nous écoute. Vous voyez, c'est pas si je sens. Est-ce que vous sentez que Dieu vous écoute quand vous priez? Est-ce que vous le sentez? Moi, je ne me pose jamais la question plus. De toute façon, la Bible dit que quand on prie, il nous entend. Donc, nous savons qu'il nous écoute quand on prie. Ah, mais moi, je ne prie plus. Pourquoi? Ah, mais je ne sens pas, je ne le sens pas. Moi, j'aimerais sentir. Vous voyez? Voilà. Ça, ce n'est pas la cuirasse de la justice. Ce n'est pas le casque du salut. Ce n'est pas la vérité pour ceinture. Imaginez un soldat sur un terrain de bataille en caleçon. Avec une casquette. Juste. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous diriez d'un soldat qui se pointe en caleçon, hein? Ah, vous diriez, mais mon pauvre. Eh bien voilà comment sont beaucoup de chrétiens. Voilà comment sont beaucoup de chrétiens. En caleçon, c'est sûr qu'il va y avoir un problème. Si nous savons, et on voit. Mais vous lirez cette épître, vous la lirez dans ce contexte. Et vous regardez, il le dit souvent, verset 18. Nous savons, voyez, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu. Verset 20, nous savons aussi que le... Vous voyez, on voit bien qu'il y avait des chrétiens qui vivaient dans les sentiments et que Dieu voulait les amener à des convictions par rapport à ce que Dieu dit. Et donc, mes frères et sœurs, je vois que l'heure a tourné, mais nous devons comprendre que si nous voulons combattre, il faut vivre par des convictions et non pas par des émotions. Parce que si 100 chrétiens, demain, alors vous disent, oui, moi je ne crois plus. Il y a 100, comment vous réagiriez, tiens donc? Si 100 chrétiens, vous disaient, ben moi je crois, mais enfin tu sais, bon, comment vous réagiriez? Tiens donc, ça m'intéresse. Si, je parle de chrétiens. Hein? Comment vous réagiriez si vous aviez 100 amis chrétiens qui rétrogradent? Comment réagiriez-vous? Voilà, c'est là qu'on voit si vous êtes armé ou pas. Ça vous ferait de la peine, mais est-ce que ça vous éloignerait de Dieu? Il y a des chrétiens qui ont abandonné Dieu parce que leurs amis ont abandonné Dieu. Ça vous montre comment ils étaient armés. Noé, il était bien armé, lui. Il était presque tout seul, mais je peux vous dire qu'il avait décidé de marcher avec Dieu. Et mes frères et sœurs, vous prendrez ces armes et vous combattrez. Et si vous ne combattez pas, c'est parce que peut-être vous n'êtes pas armé et que vous devez réapprendre à vous approprier les choses qui sont écrites. Prenez les armes, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous. Voyez que quand quelqu'un connaît la parole de Dieu, il peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Hier, j'ai discuté avec un homme de Dieu. Avec plusieurs. Mais j'ai discuté avec un homme de Dieu qui encore avait du mal à comprendre la différence, voyez, entre la tentation et la convoitise. Mais mes frères et sœurs, lorsque vous connaissez, quand vous prenez le temps de comprendre, je peux vous dire que vous n'êtes plus perturbé par la tentation. Bien sûr que la convoitise, c'est grave, parce qu'on a déjà mis le doigt dans l'engrenage. Et ça, c'est dangereux. Mais lorsque quelqu'un connaît les choses, il découvre ce qu'il doit faire, comment il doit réagir, comment il doit se comporter. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Oui, David avait un feu à l'intérieur. Ce feu, c'était pas le hasard. Il avait décidé de méditer. Et la parole est venue sur sa langue. Vous voulez que demain matin, en vous levant, après avoir prié, après avoir lu, vous ayez ce feu dans votre cœur pour que la parole de Dieu vienne sur votre langue? Vous n'avez pas envie de faire du bien aux autres demain? Il y a quelqu'un qui a envie de faire du bien demain matin à quelqu'un en vous levant une parole, peut-être pas une parole de charme, vous n'êtes pas peut-être amené à être des poètes pour Dieu, ce n'est pas important, mais au moins que je fasse du bien. Que je fasse du bien à quelqu'un, que Dieu te bénisse. C'est peut-être ça qui fera du bien à quelqu'un, oui ou non? Vous avez envie de faire du bien? À qui vous voudriez faire du bien demain matin en vous levant? À qui vous voudriez faire du bien? Envoyez un texto au pasteur, que Dieu te bénisse. Eh ouais, il y en a qui le font des fois. Ça arrive. Hein? Monsieur Gou, je pense à vous, que Dieu vous bénisse. Je sais que c'est vrai. Est-ce que Dieu peut me bénir avec un texto? Ah oui, quand on bénit, c'est pas du blabla. Quand on dit à quelqu'un que Dieu vous bénisse, c'est une prière. Ça aussi, ça fait partie, vous voyez, de la vérité. Que Dieu te bénisse. Ça s'appelle une prière d'accompagnement. Bien sûr, ce n'est pas une prière de 3 semaines, mais c'est quand même une vraie prière. Ça s'appelle une prière d'accompagnement. Que Dieu vous bénisse. Quand je vous dis que la paix de Dieu soit sur vous, je le pense. Je demande à Dieu que la paix de Dieu soit sur l'Église. Et je crois que Dieu peut le faire. Et il nous faut prendre les choses de Dieu au sérieux. Les choses de Dieu, elles sont sérieuses. Et c'est comme ça que les fils d'Éphraïm ne tourneront pas le dos. Car quand on tourne le dos avec le capitaine qu'on a, quand on tourne le dos avec les armes qu'on a, c'est qu'on n'a rien compris. Et voilà le résultat, c'est que nos enfants ne seront pas sauvés. Et moi j'ai envie, parce que c'est la volonté de Dieu, que les gens qui sont autour de nous, dans notre famille, ils soient tous sauvés. Vous n'avez pas envie? Eh bien mes frères et sœurs, ne tournons pas le dos au combat. Aimons notre divin capitaine. Je reviens à Josué, quand il a cru, il se demandait qui c'était. Mais quand il a vu, quand il a dû voir que c'était le chef de l'armée de l'Éternel, je ne sais pas s'il l'a dit, mais moi j'aurais dit « ouf ». Ouf, doucement, je vous dis ouf, mais je l'aurais dit. Parce que c'est ce qu'on devrait vivre. C'est ce qu'on devrait vivre. Seigneur, tu es avec moi et tu combattras pour moi. Oui, si je combats le bon combat de la foi. Alors on va fermer les yeux quelques instants. On va lui demander au Seigneur de nous aider. Voilà, que nous ne soyons pas des permissionnaires permanents. À l'armée, il y a des gens, ils sont tout le temps en permission. Moi, j'ai fait l'armée, il y avait des gens, ils s'arrangeaient toujours pour être en permission. Vous voyez, c'est soldat, quoi. Hein? C'est pas bien, ça. Mais dans l'Église, c'est comme ça. Il y a des gens, ils combattent jamais. Alors, ils sont dans l'armée, mais enfin, ils connaissent plus la plage et les caleçons qu'autre chose. Alors, est-ce que vous voulez connaître le bon combat? Il y a des gens qui veulent être dans le bon combat. Alors, prions le Seigneur avec moi, mais s'il vous plaît. Seigneur notre Père, nous croyons que toi, tu ne peux qu'être ce bon capitaine qui nous a déjà promu à la victoire. Car s'il y a bien une armée au monde qui est certaine de la victoire, c'est bien ton Église. Nous savons qu'il y aura des vainqueurs, tous ceux qui marcheront avec toi, qui garderont ta parole, parce qu'ils auront aimé ton nom. Seigneur, nous voulons faire partie de ceux qui aimeront ta parole, qui la serreront dans notre cœur, qui prendront du courage, car nous croyons que toi, tu donnes du courage. Seigneur, aide les chrétiens optimistes à ne pas se confier dans leur optimisme. Aide-nous, Seigneur, quel que soit notre état d'âme, à chercher le courage dans ta présence, à nous revêtir de toutes ces armes qui feront que dans cette ville, tu trouveras une église, oui, qui ne tournera pas le dos, mais une armée d'hommes et de femmes qui auront eu la joie sur la terre de combattre le beau combat de la foi. Seigneur, garde-nous dans ces choses et apprends-nous à méditer ta parole. Comme tu as aidé David, Seigneur, à vivre toutes ces expériences, même dans ses plus gros péchés, à retourner toujours à toi et à être cet homme selon ton cœur. Merci Jésus, merci. Que ton nom soit béni. Amen.